J'ai demandé aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur. Nous allons parler de la prostitution.
La prostitution au 19e siècle.
L'État refusant de se salir les mains, la réglementation de la prostitution dépend de deux pouvoirs, l'administration et la police. Cette femme dont je vous parle n'est pas en maison. Elle se prostitue dans la rue. Elle n'a pas déclaré son activité à la police.
Nous avons l'habitude depuis 1946 que la loi ne cesse d'intervenir dans le champ de la prostitution avec comme horizon d'attente son abolition. Au XIXe siècle, en revanche, les régimes successifs s'en tenaient, tranquilles comme Baptiste, à ce qu'ils nommaient le réglementarisme, qui encourageait notamment les maisons closes puisqu'elles contenaient ce qui était, hélas, inévitable. Le théoricien de ce système, c'était Parent du Châtelet. De ses enquêtes empiriques, il avait tiré la conclusion que les bas instincts de l'homme, ses entraînements génésiques, ne pouvaient être réprimés. Il leur fallait donc des défouloirs. Mais, en grand médecin hygiéniste qu'il était, il estimait aussi que les femmes destinées à tenir ce rôle devaient être contrôlées, surtout ne pas se disséminer. Le réglementarisme était en fait un simulacre. Au long du XIXe siècle, la prostitution ne se contenta évidemment pas du rôle d'exutoire que lui attribuaient les bonnes âmes. De l'activité sexuelle, elle offrit les perspectives et les spécialités les plus variées, ouvrant un champ infini de découvertes aux amateurs, et elle se répandit de plus en plus dans l'espace public à Paris. Elle ne cessait ni de jour ni de nuit. Aujourd'hui, le gouvernement n'a à promettre aux visiteurs de la capitale que des magasins et le musée d'Orsay, ouverts 7 jours sur 7, enfin en principe. Le Second Empire et la Troisième République y allaient franco, tant qu'à prôner une métropole commercialement attractive, autant jouer la carte du tourisme sexuel. À Paris, les petites femmes, c'était 24 heures sur 24.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Lola González-Quirano, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'exposition d'Orsay, oui, le musée d'Orsay est fermé parce que ses employés protestent contre l'idée de l'ouvrir 7 jours sur 7. Elle est dirigée par une femme, Isolde Bludermacher, Splendeur et misère de la prostitution, c'est le titre. Et on ne pouvait choisir parmi les nombreux livres qui paraissent à cette occasion que celui d'une femme. Le vôtre est intitulé « Filles et lieux de plaisir », c'est le sous-titre aux éditions Vendémiaire. Alors comment fait-on pour travailler sur ce sujet? Parce que les prostituées, sauf les demi-mondaines accomplies et devenues célèbres, pratiquent peu l'histoire de soi, l'histoire d'elles-mêmes.
C'est vrai, mais par contre, nous pouvons profiter de personnes beaucoup plus bavardes qu'elles, c'est-à-dire de leurs clients, qui ont laissé énormément de témoignages, et surtout parmi les grandes plumes qui ont écrit la littérature française du XIXe siècle. Et je peux penser aux témoignages de Maupassant, de Flaubert, des Goncourt.
Oui, mais il faut distinguer entre la littérature et le document brut d'archives auquel se fie davantage l'historienne.
Et effectivement, en dehors des clients, mais ils peuvent l'être aussi, nous avons les agents des mœurs. Je dis clients parce que la corruption concernait particulièrement ce service et qu'il était facile, j'allais dire, pour les agents de négocier passe-droit en échange effectivement d'un droit et d'une impunité trottoir.
Les agents de la brigade des mœurs, vous donnez leur salaire, on comprend qu'ils soient corruptibles.
Oui, les salaires ne sont pas mirobolants et j'allais dire les tentations sont très fortes.
Alors les filles ne pratiquent pas l'histoire de soi, les hommes en revanche s'épanchent. Puisque vous parliez des grands écrivains, on va entendre à plus d'une reprise évidemment dans cette émission des extraits d'adaptation de Maupassant. Nous sommes ici dans un rendez-vous de chasse avant que ne commence la campagne au petit matin auto-périphice.
Moi, je vous le dis, la meilleure maison close de la région, c'est la mère Brandon à Yvetot.
J'ai fréquenté toutes les maisons closes de la région. Il y en a 14. Franchement, je préfère Gaudierville.
Rue Trouche-Vache avec la gamine qui chante en faisant l'amour. Ma femme en fait autant si je lui demande.
Monsieur le notaire, j'ai infiniment d'estime pour vous et pour votre épouse. Mais en ce qui concerne ce genre de choses, vous n'y connaissez rien. Quand il vous prend le soir de vous y rendre, ce n'est pas pour le plaisir. c'est pour l'évasion.
Les deux ne sont pas incompatibles.
Allons, 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 messieurs, chacun ses goûts. Hein?
Évidemment, mon cher Baptiste, vous n'avez pas à chercher de dérivatif à vos soirées conjugales. Vous êtes veuf.
Mon Daru a raison. Si j'étais célibataire, je sortirais moins souvent le soir.
Croyez-moi, mon cher, mon jugement vaut le vôtre. J'ai un certain goût pour les raffinements que nous sommes en droit d'attendre de l'autre sexe. Je possède une collection de livres érotiques, tous reliés, du 18e siècle.
Ah, vous êtes comme ma femme. Quand nous accomplissons le devoir conjugal, une fois par semaine, le jeudi, elle se prépare en lisant ce genre de littérature. Parfois, il faut que je l'attende.
Oh,
la série Chez Maupassant de Marc Rivière avec Jean Rochefort dans le rôle d'Otto. Vous avez entendu, il est question des raffinements d'une certaine littérature. Vous avez profité, finissons sur les sources, Olga Gonzalez, vous avez profité des guides touristiques à l'usage des étrangers ou des provinciaux qui venaient d'Yvetot ou de Rio pour goûter les plaisirs de Paris.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de la littérature, mais on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'ouvrages, et notamment les guides touristiques, qui abordent la prostitution, j'allais dire, avec des détails pratiques qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui. C'est des guides qui peuvent être écrits en anglais, en italien, en allemand, qui recommandent la prudence, ne pas amener trop d'argent sur soi, surtout quand on tient mal l'alcool. Il ne faudrait pas se faire voler par les prostituées. Il faut être prudent aussi en termes de maladie, effectivement, connaître les tarifs.
Vous avez entendu, si j'étais célibataire, dit l'un des protagonistes du rendez-vous de chasse, j'irais moins voir les filles. Alors ça, c'est une idée reçue qui est basculée.
Pour ce qui est du 19e, j'allais dire célibataire, veuf, homme marié, tout le monde fréquente les prostituées. Parce que ce n'est pas uniquement une réponse à une misère sexuelle, comme on le prétend souvent, c'est, qu'on le veuille ou non, un loisir ordinaire, un plaisir parmi ceux qui accompagnent et rythment la sociabilité entre hommes.
Et vous dites que c'est un acte collectif autant qu'un acte individuel. Expliquez.
J'allais dire, l'acte sexuel en lui-même peut être intime, mais très souvent on se rend en bonne compagnie et à plusieurs au bordel. Les étudiants du quartier latin, par exemple, y vont fêter leurs examens. Des hommes de lettres, ils vont fêter une pièce réussie ou un article paru entre rédacteurs du même journal. Des amis y vont pour fêter un enterrement de vie de garçon. C'est un moment entre hommes.
Alors, puisque vous parlez des maisons closes, on ne va pas polariser sur ce sujet. Et puis, il va apparaître à la lecture de votre livre qu'elles peuvent être moins nombreuses à la fin du 19e à Paris qu'au début. On va quand même parler des maisons closes. Alors voilà, une maison témoin. Elle est en province, mais il y a des maisons de province qui portent des noms de maisons de Paris. Elle est organisée comme l'étaient les maisons au milieu du 19e siècle. C'est évidemment la maison Tellier, toujours selon Maupassant.
La maison avait deux entrées. À l'encoignure, une sorte de café borgne s'ouvrait le soir aux gens du peuple et aux matelots. Deux des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Et les bras jetés au cou des buveurs, assises en travers de leurs jambes, elles poussaient à la consommation. Les trois autres dames, elles n'étaient que cinq, formaient une sorte d'aristocratie et demeuraient réservées à la compagnie du premier, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame, que tout le monde respectait. Par moments, un souffle d'eau de Cologne passait dans les couloirs, ou bien une porte entr'ouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure comme une explosion de tonnerre les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée et mettaient sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée.
Maupassant, et un petit salut au site Poésie. P-O-E-S-I-S, où on trouve des lectures audio. Celle-ci a été faite par Victoria et fort bien faite. Cette maison témoin, avec son étage et son rez-de-chaussée, et madame, vous dites, êtes-vous bien moins fréquente à Paris, dans sa version moyenne, quoi, que au début du siècle. Après Haussmann, il y a un changement.
Alors, effectivement, ce type de maison disparaît à Paris. Il perdure un petit peu en province. Et ce qu'on remarque, c'est que du coup, il y a une spécialisation des lieux. Des bordels uniquement populaires, avec un estaminet et un café. Et des maisons typiquement bourgeoises, avec un salon.
Il y a une carte dans votre livre, alors on peut détailler. Ces maisons avec estaminet, à la limite de Paris, c'est à l'emplacement des barrières sur les boulevards extérieurs, comme on dit aujourd'hui?
Effectivement, ces maisons sont au milieu du 19e siècle, concentrées sur la ligne qui était la séparation entre Paris et la campagne, et tout simplement parce que c'était la limite de l'octroi, celle où les marchandises étaient taxées avant d'entrer en ville. Et donc, le vin y est coulé à foison, la bonne nourriture et la prostitution clandestine également.
Et un écart énorme avec les maisons essentiellement situées au centre, qui sont des maisons de grand luxe.
Les maisons de grand luxe qui, à Paris, sont situées pas très loin du Palais Royal et de la BNF Richelieu. Effectivement, je pense qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui les écarts qu'il peut y avoir entre un bordel de bas étage et une maison de luxe connue internationalement. Ce qui change, c'est aussi surtout l'apparition de la ville moderne avec les travaux haussmanniens qui font que les bordels sont concurrencés par un très grand nombre de formes de prostitution avec racoleuses qui travaillent sur le trottoir, soupeuses qui travaillent dans des restaurants, grisettes.
Et si on parle des maisons, il y a des maisons intermédiaires. Alors, c'est des maisons de tolérance. C'est pas la même chose qu'une maison close.
Alors, une maison close, c'est une maison de tolérance, sauf que maison close, c'est plutôt le terme qu'on emploie au XXe siècle.
Parce que les persiennes sont closes.
Parce que les persiennes sont closes, mais elles l'étaient déjà au XIXe siècle. Et surtout, on se rend compte qu'entre ce que propose un règlement, c'est-à-dire des femmes enfermées, et la réalité des pratiques, il y a un fossé. Les grandes tolérances de luxe envoient leurs filles travailler dans des restaurants, au théâtre ou à domicile.
Mais je reviens aux maisons, parce qu'il y a les maisons dont les filles ne sont pas des pensionnaires, mais sont, des femmes, des actrices qui ont besoin ou de plaisir ou de boucler les échéances. Alors, ça s'appelle comment ?
Des maisons de rendez-vous.
Des maisons de rendez-vous.
Les maisons de rendez-vous, et effectivement, ça commence d'abord pour la prostitution de luxe, parce que c'est tiré des anciennes formes de prostitution de luxe du XVIIIe siècle, avec la marchande à la toilette et l'entremetteuse qui organise des rendez-vous entre un homme et une femme qu'il a envie, qu'il a vue au théâtre, par exemple, et qu'il aimerait posséder.
Et là aussi, c'est connu, public, il y a des annonces publicitaires?
Alors, normalement, ces maisons sont censées être discrètes, mais la discrétion est affaire, est très subjective. La plupart envoient effectivement des petites annonces aux journaux, avec effectivement tout un langage codé, mais à l'égard des annonces matrimoniales, pour faire comprendre quelles sont les pratiques, quels sont le type de filles et quels sont les tarifs proposés. Et ensuite, le consommateur s'y rend et négocie après.
Alors, vous dites que ça, c'est au fond une conséquence de l'haussmanisation, avec la hiérarchisation des quartiers. L'haussmanisation aussi, c'est l'éclaircissement, l'aménagement du bois de Boulogne, des grandes perspectives, des grands boulevards, des terre-pleins qui sont des possibilités nouvelles qui sont ouvertes à la drague.
Dans mon livre, je parle d'haussmanisation de la prostitution pour parler effectivement de l'espace qui se creuse entre le lieu de prostitution et le lieu de racolage. Et à cet égard, on se rend compte que la prostitution finalement est une activité touchée comme le reste de la ville et que on va racoler sur les boulevards et emmener le client dans une petite rue malfamée du quartier plus à l'intérieur de la ville. Mais c'est exactement la même chose qui se passe avec les quartiers d'affaires et de commerce qui sont au centre de la ville, l'industrie et les ouvriers qu'on relègue à la périphérie, la salle à manger de l'appartement bourgeois qui donne sur la rue et la cuisine qu'on va reléguer au fond de l'appartement et dans la cour insalubre.
Ah, il y a ce qui est visible et ce qui est obscur. Et c'est le cas dans l'appartement bourgeois lui-même. Il y a des très beaux tableaux dans l'exposition d'Orsay de Jean Béraud. L'un, c'est l'attente. Alors, on voit un monsieur et une dame dans un virage de rue à une distance respectable. Et le deuxième, c'est la proposition. Le monsieur a approché la dame. Ces messieurs, on les appelait parfois les vieux marcheurs. Il y avait un journal qui s'appelait Le Vieux Marcheur. C'est superbe comme appellation.
Alors, Vieux Marcheur, je ne connaissais pas. Moi, je connaissais la Marcheuse.
Non, vous citez le journal qui s'appelle Le Vieux Marcheur. Et la Marcheuse, qu'est-ce que c'est ?
La marcheuse, c'est généralement une ancienne prostituée qui travaille pour une maison de rendez-vous, non plus en se prostituant, mais en vantant la marchandise à la porte du bordel, voire sur les boulevards.
Alors, la réglementation permet donc ces maisons, mais en même temps, aux filles qui sont dites soumises, il est appliqué des textes. Si elles ne s'y soumettent pas, elles peuvent se retrouver au dépôt à Saint-Lazare, par exemple.
La police est pragmatique. Elle ne peut pas cantonner toute l'activité prostitutionnelle en bordel. Il y a tout donc une partie qui racole dans la rue. Il faut néanmoins contrôler cette activité, réglementer, les arrêter.
Mais elles sont arrêtées, pourquoi ?
Pour mille et une raisons. Bah, j'allais dire, ce n'est pas le racolage passif, mais on peut être arrêté pour avoir parlé à quelqu'un, à un homme accompagné, être sur le boulevard, être sur les marches des Invalides.
Un peu plus, non ?
Ah, pas forcément. Non, c'est l'arbitraire est extrêmement présent.
Et les rafles ne sont pas collectives ?
Il y a des rafles collectives en plus des arrestations individuelles. Celles-ci sont faites dans certains parties de Paris, exclusivement sur les boulevards. Et souvent, elles ne permettent d'arrêter que des femmes honnêtes ou en général des novices qui n'ont pas vu le coup se préparer.
Oui, parce que en principe, quand on voit l'agent, on est avec son souteneur et on se réfugie dans un café où on paraît filer le parfait amour. Mais de temps en temps, on est pris dans la souricière et on se retrouve dans cette prison qui est aussi un hôpital parce qu'ici exerce un contrôle des maladies vénériennes possibles et qui s'appelle Saint-Lazare.
Non, celle-là est dérollée.
En 87. Rose à la rouge, normal.
Envoyez le deuxième lot.
Allez, avance. Ça suffit, ça marche plus ou quoi, merde, avance.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Vrai, je ne sais pas ce qui m'a pris hier à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas, à Saint-Lazare. Mais toi, pendant ce temps, la pauvre chien, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, je peux t'envoyer rien de rien. C'est la misère, ici, tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé, à Saint-Lazare. Va t'en trouver la grande nana, dis-lui que je la prie de casquer pour moi, je lui rendrai ça à ma sortie, mais va pas y faire du boniment pendant que je marre et que je prends des médicaments à Saint-Lazare.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La regrettée Patachou dans une chanson de 1900 d'Aristide Bruand, notre invité. Lola González-Quirano a publié un livre sur les filles et les lieux de plaisir à Paris, qui paraît chez Vendémiaire, en même temps couvre, en principe, l'exposition « Splendeur et misère de la prostitution » au musée d'Orsay. Je dis « ouvre en principe » parce que comme le gouvernement veut que les musées deviennent des pompes à finances qui fonctionnent 7 jours sur 7, le personnel proteste et est en grève reconductible. Alors n'allez pas à Orsay, même si l'exposition est très alléchante. Lisez Olga González. La prostitution, telle que vous la décrivez d'ailleurs, elle fonctionne 24 heures sur 24, depuis les Halles à 3 heures du matin jusqu'au bois de Boulogne, bien évidemment à 3 heures du matin et au-delà.
Alors Paris se réveille aux Halles, vers effectivement 3h-4h du matin, avec les premiers maraîchers qui amènent leurs provisions. Et la prostitution, effectivement, y est présente dès le début. Dans la matinée, ça continue autour des Halles, mais effectivement autour des gares aussi, qui amènent leur lot de voyageurs et de banlieusards venus travailler à Paris. L'après-midi, la prostitution se déplace dans les quartiers d'affaires et de commerce qui sont autour des grands boulevards, mais aussi dans les jardins, les passages, les promenades.
C'est formidable les passages, parce qu'il n'y a pas d'intervention possible de la préfecture de police directement.
Tout dépend de la réglementation, mais la plupart étant des voies privées liées à des spéculations immobilières, effectivement, c'est les sociétés qui les ont créées, qui sont chargées de la sécurité avec des vigiles et des gardiens qui peinent très souvent, parce qu'ils n'ont aucun moyen de coercition sur les prostituées, de tenir une certaine forme de moralité.
Comme plus tard, beaucoup plus tard dans la journée, le soir, dans les bals, c'est au service d'ordre payé par les animateurs des bals d'assurer la surveillance.
Exactement, sauf que la prostitution étant une activité extrêmement utile à un directeur de théâtre ou à un directeur de bal, très souvent ce service se contente de limiter les excès les plus flagrants, en sachant que parallèlement, souvent le directeur n'hésite pas à distribuer entrées gratuites pour les femmes.
Alors dites-moi, c'est très difficile de distinguer un souteneur d'un amant. C'est très difficile de distinguer une promeneuse qui regarde une vitrine l'après-midi dans le quartier des grands magasins d'une femme qui vend ses charmes. Alors ça trouble beaucoup les contemporains. Voici un texte de M. Virmettre dans un de ses guides pour touristes qui s'appelle « Paris galant » et lu ici par Agathe André, dont on se souvient des émissions nocturnes et équivoques sur France Inter.
La cocotte n'est autre chose que la fille de la rue qui a eu plus de veine, plus d'audace que ses congénères condamnés au boulevard à perpétuité, à l'hôpital, au souteneur et à Saint-Lazare. La seule différence qu'il y ait entre elles, c'est que les unes, couvertes de haillons achetés au décroche-moi ça, chaussées de savates, traînent leur misère dans la boue des ruelles sordides et ont pour boudoir des chambres d'hôtel garnies infectes, tandis que l'arrivée, la cocotte, opère dans les grands quartiers. Elle a un appartement luxueux, parfois un hôtel, velours, soie, diamants, domestiques mâles et femelles, chevaux et voitures. Celle de la rue a pour souteneur un voyou qui la vole et la bat. Celle de la haute a un rastaquaire qui la gruge sous une autre forme. C'est un maquereau en gants jaunes, voilà tout. On refuse la main au souteneur de la rue. Le souteneur de la haute est reçu dans le monde. Au lieu de promener ses écailles chez les mastroquets, il les promène dans les salons, dans les cercles, dans les tables d'hôtes huppées. Le souteneur de la rue ne connaît que la plage Pigalle ou Clichy. Le souteneur de la haute fait les plages en réputation. Nice, Monte-Carlo, Trouville ou Biarritz.
Alors chez les hommes qui se pourlèchent les babines à nourrir cette littérature, il y a deux tendances. Elles sont toutes pareilles, celle de la haute et celle de la rue. Et l'autre tendance consiste à nommer spécialité par spécialité. Vous avez commencé à le faire, vous pouvez continuer d'ailleurs, Olga Gonzalez, parce que c'est vertigineux comme calendrier.
Effectivement, il y a une passion et peut-être une angoisse derrière ce besoin de cataloguer les prostituées en fonction d'une pratique et d'un lieu qui amène à avoir des persilleuses, des omnibusardes, des pontonnières, des racoleuses, des soupeuses, des dames du lac, par exemple, celles qui sont spécialisées dans le tour de calèche autour du lac du Bois de Boulogne, des marcheuses et j'en passe.
Alors la marcheuse, c'est celle qui accompagne la prostituée en vantant ses mérites, la prostituée qui marche en étant une asphalteuse, l'asphalte.
Oui, il y a une quantité d'expressions qui sont liées à l'asphalte, le trottoir, et on voit à travers tous ces termes à quel point le racolage de rue devient très important à cette
époque.
Oui, mais
ça indique aussi beaucoup ce souci de la taxinomie sur l'esprit des gens du 19e siècle.
Ah, il y a une passion pour la classification et la typologie qui montre à quel point on cherche à identifier ces femmes et à leur donner une place, si ce n'est pas dans la pyramide prostitutionnelle, au moins dans l'espace parisien.
Oui, sauf que ces femmes sont insaisissables et sont sur une trajectoire. Alors vous citez à plusieurs reprises Valtès de la Bigne, par exemple. La trajectoire de Valtès de la Bigne, dont le nom a peut-être survécu et on la voit citée souvent dans l'exposition d'Orsay.
Valtès de la Bigne, c'est une fille du peuple qui a réussi. Elle commence effectivement très très tôt, à ce que nous allons appeler l'adolescence. Aujourd'hui, elle est en rupture d'atelier, elle devient serveuse et ce qu'on appelle étudiante au quartier latin.
Et verseuse aussi.
Voilà, verseuse. Elle rencontre un jeune homme qui lui fait deux enfants et qui est envoyé par sa famille en Algérie pour éviter de continuer l'affaire. Et là, elle se lance effectivement dans la prostitution plus de luxe parce qu'elle rentre au théâtre, devient la maîtresse
d'Offenbach. Alors ça, c'est un grand moment. Le directeur qu'on va entendre ici, c'est le directeur de Zola. Je ne suis pas sûr que ce soit Offenbach, mais c'est quelqu'un du même acabit. Et vous allez voir comment il présente son théâtre.
Ce soir-là, au théâtre de la Renaissance.
Tiens, Faucherie. Mon cher directeur, je vous présente Monsieur Hector de la Faloise, un mien parent, cousin, quelque peu, je crois. Il vient de notre belle province. Le voici maintenant à Paris.
Non, le pauvre Paris.
Et ce soir, c'est sa première.
Eh ben, la blonde Vénus, vous êtes gâtée pour votre décucelage.
Votre théâtre.
Tadon, dites mon bordel.
Et votre nana, a-t-elle une jolie voix?
Une femme comme ça, mon cher, n'a pas besoin de savoir chanter. Regardez,
c'est un cochon.
Oui, toute la salle tirera la langue. Vous allez vous rincer l'œil.
Besoin de très bien chanter, adaptation de Zola par Maurice Cazeneuve. Il y a beaucoup de bourgeois, parce que vous avez aussi étudié les réactions des bourgeois bien nés qui continuent à se porter, qui sont comportés honnêtement, qui disent « mais c'est plus des théâtres, c'est des bordels », les directeurs l'avouent eux-mêmes, dirigés par des montreurs de femmes, des montreurs de fesses. Il y a tout un courant de dénonciation aussi.
Il y a un courant de dénonciation très fort, particulièrement à la fin du 19e siècle, avec le développement de l'abolitionnisme, qui à l'époque milite pour l'interdiction des maisons closes et pas l'ensemble de la prostitution, et un courant moral très fort avec tout simplement toutes les ligues de relèvement pour la morale publique qui luttent aussi bien contre la prostitution, contre l'alcoolisme, contre la débauche des jeunes filles qu'il faut sauver, etc.
Et vous insistez sur le rôle des femmes bourgeoises dans cette émergence de l'abolitionnisme, Lola Gonzalez.
Effectivement, j'allais dire, les femmes bourgeoises ont tout à gagner à lutter contre la prostitution, parce que c'est elles qui sont, contrairement aux femmes populaires ou aux femmes de la bonne société, les plus enfermées à domicile, sous prétexte notamment de ne pas... qu'on puisse les identifier comme des prostituées dans l'espace public.
C'est comme
notamment.
Ça que les parterres de théâtre et les terrasses de café l'auront été longtemps interdites. Alors, votre livre sur les filles et les lieux de plaisir, c'est chez Vendémiaire. L'exposition d'Orsay, quand elle ouvrira au public, est intitulée « Splendeur et misère de la prostitution ». Comme disait Nietzsche, puisqu'on ne peut pas extirper la prostitution, célébrons la... Notre émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Enzo Labori, la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Egulesco et Céline Loriou.